déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À déroulement du livre, aujourd'hui, nous vous présentons une émission animée par l'abbé Martin Lagacé, prêtre de la communauté de l'Emmanuel. La série s'intitule « La deuxième lettre aux Corinthiens ou la condition d'apôtre ».
Prenons notre méditation sur la deuxième lettre aux Corinthiens. Paul s'adresse donc à une communauté qu'il a fondée lui-même et avec laquelle il entretient une relation, on pourrait dire, assez passionnelle, pleine d'amour, mais en même temps pleine de souffrance. Dès la première lettre aux Corinthiens, on voit que Paul est aux prises avec des dérives, des dérapages sérieux, en même temps qu'il va écrire dans cette première lettre parmi les plus beaux passages de la littérature paulinienne. Alors, je vous rappelle un peu le contexte de la deuxième lettre aux Corinthiens. En fait, c'est plus ou moins la quatrième. Je m'explique, je l'ai déjà dit dans les autres épisodes, mais en fait, il y aurait comme quatre lettres aux Corinthiens. Une première que l'on ne connaît pas, mais dont on connaît l'existence, parce que Paul y fait allusion dans la première lettre aux Corinthiens. Première lettre aux Corinthiens, donc je viens de le dire, est une lettre pastorale importante qui donne lieu à des corrections et elle sera suivie par une visite de Paul, visite qui va mal se passer en fait. Et donc Paul est blessé dans son autorité, il y a des prédicateurs judaïsants qui sont passés après lui, qui ont mis en cause son autorité et sa doctrine. Et il va écrire une troisième lettre écrite dans les larmes. Et cette lettre va donner en fait des bons fruits. Comment est-ce que Paul va le savoir? C'est par la visite que Tite va faire à Corinthe. Et il va faire le constat donc que la communauté s'est amendée et a décidé d'apporter les correctifs que Paul souhaitait. Ce qui donne lieu à la quatrième lettre, qui est celle que nous connaissons, qui est la deuxième lettre aux Corinthiens, qui est dans un tempérament différent. À la fois, Paul est réjoui parce que effectivement il y a eu cette conversion, si on peut dire, ce retour de la communauté vers l'autorité de Paul et sa doctrine. Mais en même temps, Paul sent le besoin, encore une fois, de faire une apologie, ce qui est récurrent dans cette lettre. Une lettre qui est en fait une belle réflexion sur la condition d'apôtre. Nous arrivons maintenant dans, je dirais, ce qui est un peu le cœur de cette lettre, en tout cas à mon avis, de cette deuxième épître aux Corinthiens, qui est ce passage du chapitre 5, à partir du verset 14. Voici ce que nous lisons. « En effet, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de manière charnelle, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » Donc Paul nous amène ici, puis dans les versets suivants que nous allons voir, au cœur de la théologie chrétienne, si l'on peut dire. Et on voit un Paul qui puise dans ses vérités, je dirais, son énergie vitale, son énergie missionnaire et toute sa vision de la vie chrétienne. On y reconnaît, je dirais, le christocentrisme de Paul. Rappelez-vous ce qu'il avait déjà dit aux Corinthiens dans sa première lettre. « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour nous, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Il dira aussi dans l'Épître aux Galates, « Ma vie dans la chair aujourd'hui, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Et un peu plus loin dans la même lettre, il dira « Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Une manière de dire que le monde a fait une croix sur moi et moi j'ai fait une croix sur le monde, car ma vie est tout entière donnée au Christ. Alors, dans ce premier verset, il y a quand même une formule qui est un peu énigmatique. Oui, Paul dit « l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous », ça nous le savons. Et il ajoute « et qu'ainsi tous ont passé par la mort ». Alors, d'abord, il nous dit « l'amour du Christ nous saisit ». On sent chez Paul donc une urgence, comme un feu qui le brûle, une impulsion qui le pousse à la mission. Mais qu'est-ce que ça veut dire « parce que tous sont morts » ? Alors, est-ce que Paul parle de la condition mortelle universelle de l'être humain ? On va aller chercher dans l'Épître aux Romains peut-être un éclairage supplémentaire sur cette phrase peut-être un peu hermétique. Voici ce que Paul donc dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12 et suivant. « Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. » Donc Paul nous montre, nous donne une vision de l'humanité avec une tête qui est celle d'Adam. Et cette tête a mangé le poison du péché originel. Et donc ce poison est passé dans tous les membres. Nous avons, par une solidarité humaine, hérité de ce péché originel qui est devenu en nous comme une blessure originelle. Mais Dieu donne à l'humanité une seconde tête. Voici ce qu'il dit donc au verset 15 de ce même chapitre 5 de l'Épître aux Romains. « Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste ? » Donc, cette première tête, Adam, a mangé le poison du péché qui a répandu la mort, mais la deuxième tête nous apporte le remède, l'obéissance du Christ, qui nous apporte la grâce et la vie éternelle. Donc, Jésus est ce nouvel Adam dont l'action rédemptrice est potentiellement aussi universelle qu'est la faute d'Adam et ses conséquences dans les membres de l'humanité. Alors, c'est donc que tous sont morts. On peut peut-être aussi le comprendre dans un sens spirituel. Et c'est le verset suivant qui nous éclaire, « afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Voici ce que nous dit encore l'Épître aux Romains. Cette fois, c'est au chapitre 6, versets 8 à 12. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu. Et il ajoute plus loin, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Cette vie qui n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais sur le Christ, donc on est mort à cette vie auto-centrée, pour entrer dans une dynamique qui n'est plus celle du mérite, le salaire du péché, c'est la mort, mais cette dynamique de la grâce. Et ce n'est pas seulement un changement moral qui se produit, je renonce au péché, mais théologal, puisque j'entre dans ce don gratuit de Dieu qui renverse complètement mon économie humaine. En effet, je le répète souvent, ce passage capital de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de vos œuvres, c'est le don de Dieu. » Jésus lui-même le dira dans l'Évangile, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Donc, encore une fois, ce n'est pas seulement un changement moral, mais un changement théologal. J'utilise toujours cette image de la différence entre la navigation à rame et la navigation à voile. Paul dira « Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse agir. » Donc il y a un principe supérieur dans notre vie, le souffle de l'Esprit qui rentre dans notre âme et qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, avec beaucoup moins d'efforts. Donc que cette vie ne soit plus centrée sur soi-même, mais sur celui qui est mort et ressuscité pour eux. On a un écho de cela dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 23. On sait bien à quelles actions mène la chair, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, etc. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et donc, si l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Mais ce recentrement, ou plutôt ce décentrement du moi avec ses passions qui ne sont pas purifiées par l'Évangile, pour se centrer sur le Christ mort et ressuscité, suppose en nous une vie spirituelle. Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15, « Demeurez en moi comme je demeure en vous, je suis la vigne, vous les sarments, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » Donc cette vie de décentrement, encore une fois, n'est pas seulement un changement moral, mais un changement théologal, au fond nous indique un rapport de dépendance avec Dieu, de dépendance à sa grâce pour nous guérir de ce volontarisme qui peut être aussi parfois un volontarisme chrétien. Je vais obéir au commandement de Dieu, au fond, à la force du poignet, et je n'accepte pas cette dépendance, ce décentrement vers la grâce de Dieu. Continuons notre lecture et Paul nous dit donc au verset 16 du chapitre 4, « Nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair. Maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. » Je rappelle que dans l'esprit de Paul, la chair désigne simplement la condition humaine quand elle n'est pas enrichie par la grâce, quand elle repose sur ses simples propres ressources naturelles que sont son corps, son intelligence, ses volontés, ses facultés, etc. Le Christ a pris la chair, le Christ a été dans la chair, et beaucoup l'ont connu dans la chair, mais ne l'ont pas connu forcément dans l'esprit. Ils l'ont connu selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on a dans l'Évangile, par exemple, cette formule extraordinaire que Jésus adresse aux apôtres. Il leur dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, les oreilles qui entendent ce que vous entendez. » Il dit également « Ils ont des yeux et ne voient pas, et des oreilles et n'entendent pas. » Comment comprendre cette antithèse? Eh bien, c'est simplement le rapport entre la foi et l'incrédulité. C'est-à-dire, les yeux qui voient et les oreilles qui entendent, ce sont ceux qui, à partir de l'humanité du Christ, arrivent à la divinité. Ceux qui, à partir de la nature humaine de Jésus, comprennent sa nature divine et sont sauvés. Voici ce que Jean dit dans le prologue de sa première épître. « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Donc cette vie éternelle qui est invisible, qui est divine, qui était auprès du Père, elle s'est manifestée dans la chair. Mais pour connaître le Christ dans sa nature divine, il faut le connaître non selon la chair, mais selon l'esprit, c'est-à-dire avec un esprit de foi. Saint Augustin dira que le Christ est le sacramentum du Père. Un sacrement, c'est un signe, donc quelque chose de sensible qui communique la grâce de Dieu. Donc le Christ est le premier des sacrements, si l'on peut dire. Et sa chair n'est pas un écran, mais un sacrement. Du sensible, nous allons au spirituel. De l'humain, nous allons au divin. Et quand on y regarde de près dans notre vie chrétienne, eh bien, c'est comme ça que ça s'est produit. C'est peut-être par notre famille humaine que nous sommes arrivés à la vie divine, ou c'est peut-être par des rencontres, des amitiés, ou la découverte d'une communauté chrétienne, donc humaine, que nous avons accédé à la foi chrétienne et que nous avons été, si on peut dire, divinisés. Alors, Paul dit « Ce n'est plus ainsi que nous connaissons le Christ ». Alors, de quelle connaissance s'agit-il? Paul y fait allusion dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, versets 8 à 11. Voici ce qu'il dit. « Oui, je considère tous mes avantages humains comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. » Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Donc Paul estime que la connaissance du Christ est un trésor d'une valeur incomparable, qui nous rappelle évidemment la parabole du trésor caché à cet homme qui découvre un trésor dans un champ, nous dit Jésus, et qui s'en va tout joyeux vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ où se trouve ce trésor caché. Ce champ, on peut dire que c'est l'humanité de Jésus qui cache le trésor de la divinité. Rappelons-nous aussi Saint François qui a accepté de tout perdre lui aussi, toute la richesse et les avantages d'une vie sociale confortable, pour posséder ce trésor qui est le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Paul aussi nous éclaire sur cette connaissance du Christ dans la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens au chapitre 2, versets 11 et 16, cette connaissance qui n'est pas selon la chair mais selon l'esprit. Voilà ce qu'il dit au verset 11. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l'y soumettre, car il est écrit « Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l'instruire ?» Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Alors Paul le dit clairement que cette connaissance du Christ qui nous associe à ses souffrances et à sa résurrection et à sa gloire nous est communiquée par le don de l'Esprit, cet Esprit qui est parfois caché aux sages et aux savants, mais qui est donné aux tout-petits. Il le dit aussi ailleurs dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur à moins qu'il n'ait reçu l'Esprit-Saint. » Donc cette connaissance du Christ, elle se fait par le don de l'Esprit que nous recevons lorsque nous croyons que Jésus est Seigneur et que nous sommes baptisés, renouvelés, justifiés et réconciliés avec lui. Et Paul continue donc, il dit, « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. » Ce passage me fait toujours penser au rituel du baptême qui commence normalement à la porte de l'église. Dans notre paroisse, nous avons la joie de souvent célébrer les baptêmes. Il y a beaucoup de petits-enfants et je leur pose la question s'ils connaissent l'histoire de Noé. Et voici ce que nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 6, verset 13. « Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée. Je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause des hommes et je vais les faire disparaître de la terre. « Fais-toi une arche, Noé, en bois résineux. Tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. » Un peu plus loin au verset 17, « Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr, mais j'établirai mon alliance avec toi. Et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. » Donc, la nouvelle arche, l'arche de la nouvelle alliance, d'une certaine manière, c'est l'Église. Donc, nous sommes sur le porche de l'Église. Cet enfant va entrer dans cette arche. Il va quitter ce monde qui est passager, qui est marqué par la condamnation et la mort. Et il va devenir une création nouvelle en entrant donc dans cette arche de la nouvelle alliance qui, encore une fois, l'Église qui a été fondée dans le bois de la croix. D'ailleurs, dans les lignes que nous venons de lire, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il y a plusieurs allusions fines au déluge. Rappelez-vous que Paul dit « La mort a été engloutie par la vie ». Il dit, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, « Tous sont morts ». Et il parle d'une création nouvelle. Nous rappelons ce passage de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6. « Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés dans le nom de Jésus et dans l'Esprit de notre Dieu. » Et saint Pierre nous dit aussi, nous parle de cette création nouvelle dans sa première lettre au chapitre 1, verset 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se manifester dans les derniers temps. » Il ajoutera aussi dans sa deuxième lettre, « Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. » Nous lisons également dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 1 à 4. « Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. » Donc, cette création nouvelle, c'est la promesse d'un monde nouveau qui sera parfait, qui sera juste, sans corruption, ni flétrissure, ni vieillissement, un monde définitif.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre l'abbé Martin Lagacé, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, dans une série intitulée « La deuxième lettre aux Corinthiens ou la condition d'apôtre ».